France Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde. Ce soir, c'est avec pour la rédaction russe Anya Stroganova. Pour la réforme de la Constitution voulue par Poutine, où l'on voit apparaître Dieu, l'interdiction du mariage homosexuel également. Hermine Roumilac, de la rédaction chinoise,
Mira.
À propos du projet consistant à distribuer une sorte de green card chinoise, donc aux étrangers. Et puis Yann van der Meyde, de la rédaction en anglais,
Good evening.
Pour un point sur la guerre en Syrie. Bonsoir à vous. Avant cela, intéressons-nous une nouvelle fois à l'expansion galopante des contaminations par le coronavirus qui se rapproche de la pandémie. En effet, le nombre de cas de nouveaux coronavirus dans le monde a atteint les 100 000, dont plus de 3 400 décès dans quelques 92 pays et territoires. Yann van der Meyde, le coronavirus se propage maintenant donc dans toute l'Europe, y compris dans les pays initialement peu touchés. C'est le cas des Pays-Bas.
Les Pays-Bas, maintenant, il y a 128 cas. Hier, c'était seulement 83. J'ai parlé à une femme qui travaillait en Chine, à Wuhan, pour une entreprise néerlandaise qui s'appelle Kathleen. Elle a ensuite été évacuée, mais voici ce qu'elle m'a dit avant de prendre son vol de retour vers les Pays-Bas.
You don't really know which is correct news or not. They say they're going to be spraying...
Alors que vous allez l'expliquer.
Voilà, elle a dit qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient et qu'on ne pouvait pas vraiment démêler le vrai du faux. Elle a raconté cet épisode où tout le monde devait rester à la maison et soudain de gros camions citernes sont arrivés pour asperger les rues et les poubelles de désinfectants. Elle a essayé de rester confinée chez elle autant que possible, mais plus tard elle a découvert que pas moins de 7 familles dans son immeuble avaient été contaminées par le coronavirus.
Et donc, elle a finalement été évacuée, hein, c'est
ça ? En fait, oui, elle était arrivée de Wuhan avec le deuxième vol d'évacués de Français. Elle a ensuite été transportée par avion à Marseille. Et de là, à Bruxelles, au total, il y avait 15 Néerlandais qui ont été évacués sur ce vol à Bruxelles. On l'a mise dans un bus et emmenée à un centre situé sur une base militaire du sud des Pays-Bas, près de la ville d'Eindhoven. Là, elle a été placée en quarantaine pendant 14 jours, comme tout le monde. Après cette période, elle n'a montré aucun signe de la maladie et elle a pu partir, mais seulement pour se retrouver dans un pays à son retour attaqué par le virus et où, en plus, les autorités ne semblent pas encore prendre la menace trop sérieusement. Alors, pour elle, finalement, elle voudrait peut-être mieux repartir à Wuhan.
Wuhan, justement, Hermine Roumilac de la rédaction chinoise. La situation là-bas s'améliore de jour en jour alors que la ville de Wuhan était l'épicentre de l'épidémie.
Oui, donc Wuhan, cette ville qui est maudite, qui est sacrifiée, va mieux si on croit aux derniers chiffres officiels du gouvernement chinois. La situation de l'épidémie est sur le point d'être sous contrôle total dans cette ville. Avec une centaine seulement de nouveaux cas quotidiens, les 9 millions d'habitants de Wuhan qui sont en confinement forcé depuis le 23 janvier peuvent peut-être enfin voir le bout du tunnel. En effet, 80% des décès sont concentrés à Wuhan. Le chiffre officiel chinois montre qu'il y a 2300 morts liés au coronavirus sur 50 000 cas confirmés dans cette ville.
Alors, très concrètement, comment les gens qui sont bloqués dans ces villes, confinés chez eux, qui ne peuvent pas travailler, ben finalement, on va employer les grands mots, survivent.
Oui, survivent. Tout à l'heure, mon collègue a déjà expliqué un petit peu ce que cette Hollandaise a vécu là-bas. Donc, en fait, c'est exactement comme ce qui est écrit dans le roman La Peste par Albert Camus. En fait, il y a la détresse, l'angoisse, la colère des habitants. Il y a aussi la bravoure et les sacrifices des personnels médicaux. Donc le dernier chiffre montre qu'il y a 3000 médecins ou infirmières contaminés dans cette ville. Donc il y a au moins 6 morts. Mais aussi il y a les courageux journalistes citoyens qui essaient de nous montrer la vérité dans la ville pour avoir osé montrer les endroits où les caméras des médias officiels ne veulent ou ne peuvent pas y aller. Ils ont fini par être disparus ou être arrêtés par la police.
Qui sont précisément ces gens? Vous parlez de journalistes citoyens?
Oui, les journalistes citoyens, parce que ce ne sont pas des journalistes avec leur carte de presse, mais ils se portent comme des journalistes qui
témoignent.
Témoignent. témoigne sur la situation dans la ville. Donc, je vais citer trois personnes que je pense qu'ils méritent d'être rendues hommage par leur courage, de leur bravoure.
Alors,
aussi.
Le premier d'entre eux,
c'est cet avocat qui s'appelle Chen Qiushi. Il s'est rendu à Wuhan le 24 janvier avec le dernier train avant le blocus. Il savait qu'il y a le danger, il savait qu'il risque d'être arrêté, mais il disait qu'il voulait montrer la vérité.
我们今年的疫情堪比03年的非典。
Il a dit que la situation de cette épidémie est similaire au SRAS de 2003. La cause de l'explosion de l'épidémie est liée directement aux non-transparences des informations. Et la seule arme, selon lui, efficace contre la maladie est de dire la vérité, rien que la vérité. Donc il a dit qu'il faut montrer la vie dans cette ville. C'est pour cette raison que je suis ici à Wuhan. Il a tenu ses paroles donc, pendant son séjour dans la ville. Il a pu poster plusieurs vidéos qui montrent la réalité dans la ville. Il a promis de rester jusqu'à la fin de l'épidémie, mais seulement 12 jours après, le 6 février, il est disparu, il ne répond plus au téléphone.
Autre témoignage.
Donc il y a aussi Fang Bing, cet habitant de Wuhan, il est arrêté aussi après ses posts de vidéos sur Internet des hôpitaux de Wuhan. Et aussi ce journaliste de 25 ans seulement, M. Li Zehua. Il a posté plusieurs vidéos des endroits très sensibles, surtout près de ce fameux laboratoire P4 de Wuhan qui a été soupçonné d'être à l'origine de l'épidémie. Il a pu filmer aussi le quartier où il y a eu ces grands assemblements de 10 000 personnes aussi. Mais avant ça, il a été arrêté, mais avant son arrestation, il a filmé en direct son arrestation. Il a fait un discours aux agents de police qui l'attendaient dehors.
Donc là, il est en train d'interpeller les policiers.
Il parle derrière sa porte avec les policiers de l'autre côté. Donc, il a dit qu'il respecte la loi. Il n'a rien fait de mal contre la Chine ni contre le Parti communiste avant de faire référence au mouvement démocratique du printemps 1989. Il dit « Je sais que l'idéaliste est brisé à cet été-là. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce qui s'est passé. Ils pensent que ce qu'ils ont aujourd'hui leur est dû, mais un jour, ils vont découvrir comme moi une porte » par lequel ils sortiront, mais ils verront qu'il n'y a plus de retour derrière.
Et donc lui non plus, on n'a plus de nouvelles.
Il n'y a plus de nouvelles, mais selon les formations officielles, ils ont été confinés parce qu'ils ont contacté des malades, mais on n'a aucune nouvelle de ses proches ni de ses amis. En fait.
Pour ce qui est de la Russie, Anya Stroganova, est-ce qu'elle est moins touchée, épargnée par le coronavirus?
Oui, on pourrait croire en effet que la Russie est très peu touchée par l'épidémie qui se répand partout dans le monde, parce que officiellement, depuis le début de l'année, il n'y a que 10 cas confirmés, donc 6 nouveaux cas ce vendredi le 6 mars, et tous ces 6 personnes reviennent d'Italie, plus les 3 Russes évacués du navire de croisière le Diamond Princess, qui était placé en quarantaine à Kazan. Donc il y a 13 cas au total, ce qui paraît improbable. On pourrait essayer de trouver l'explication dans le fait que dès le début de l'épidémie, la Russie a pris des mesures très strictes pour limiter la propagation du virus. Déjà depuis le 23 janvier, le pouvoir instaure le contrôle sanitaire pour tous ceux qui rentrent de Chine. Dans la foulée, la Russie ferme sa frontière terrestre avec la Chine, puis finit par interdire carrément l'entrée sur son territoire aux ressortissants chinois.
Est-ce que ces interdictions, ce contrôle aux frontières, finalement, permet de stopper l'épidémie?
Et ça, c'est la grande question que tout le monde se pose, parce que si les autorités tentent de rassurer la population, on entend plusieurs voix de spécialistes qui disent qu'il y a beaucoup plus de contaminés que ces 13 cas officiellement confirmés, comme par exemple un pédiatre moscovite reconnu qui explique qu'on devait compter en Russie des centaines, voire des milliers de cas contaminés, ou un autre médecin infectiologue qui précise que beaucoup de gens qui ont sûrement eu le coronavirus n'ont pas consulté de médecin, et donc le virus circule en Russie, mais d'une manière invisible.
Quelles mesures ont été adoptées à Moscou maintenant, plus précisément ?
Il y a une mesure qui fait un peu tiquer tout le monde, c'est le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, qui a signé jeudi un décret spécial. Ce document oblige les gens qui reviennent de 11 pays, dont la France, de signaler leur retour aux autorités. Ils doivent appeler un numéro spécial pour dire qu'ils sont rentrés et ensuite ils doivent s'isoler chez eux avec un arrêt maladie. Comment seront-ils contrôlés? Ça, c'est une grande question. On parle aujourd'hui des caméras de surveillance et ça fait un peu peur.
Et j'ajoute, Anya Stroganova, que la Russie Russie a décidé d'annuler le forum économique annuel de Saint-Pétersbourg qui devait avoir lieu début juin.
This is Radio France International.
Accent du monde. Philippe Lecaplin.
Dans l'actualité du monde, le calme qui règne à Idleb, conséquence heureuse de la trêve conclue sous la houlette de la Russie et de la Turquie. Jan van der Meyde du service anglais, les chefs d'État russes et turcs ont donc décidé ce cessez-le-feu qui a eu un effet immédiat.
Oui, les deux dirigeants ont décidé de cesser le feu. Oui, le ciel est complètement vide à la suite de cet dernier affrontement. Une nouvelle vague de réfugiés est entrée en Turquie. Et la semaine dernière, la Turquie a soudain ouvert ses frontières avec la Grèce, ce qui a provoqué le chaos presque de la frontière grecque. On a notamment vu les soldats grecs user de violence pour tenter de contenir ce marée.
Et l'Union européenne reproche donc à la Turquie d'utiliser ces réfugiés comme finalement une monnaie d'échange ?
Oui, c'est vrai. En fait, le gouvernement turc veut que l'Union européenne paye pour le logement des réfugiés. J'ai demandé à un politicologue turc pro-gouvernemental de l'Université de Bilgi d'Istanbul, le professeur Iltar Turan, pourquoi la Turquie veut que l'Europe paye.
Why should Turkey have to pay for that when all these immigrants want to go into Europe?
Quelle est son analyse?
Il répond en fait avec une question par une contre-question. Il demande pourquoi ce serait à la Turquie de payer pour tous ces réfugiés qui veulent aller en Europe. Il dit qu'à l'heure actuelle, la Turquie a accueilli quelques 4 millions de personnes, d'autres arrivent, et la plupart de ces personnes ont décidé d'aller en Europe. Ils ne veulent pas rester en Turquie. Pourquoi la Turquie devrait-elle les accueillir quand ils veulent en fait aller en Europe? Et pourquoi l'Europe ne veut-elle pas partager la charge? Le professeur Turan se demande.
Parlez-nous maintenant de cet accord financier qu'il y aurait entre l'Europe et le gouvernement turc.
Oui, en fait, cet accord prévoyait que l'Union européenne paierait quelque 6 milliards d'euros. Mais selon la Turquie, Bruxelles n'a payé que la moitié, alors 3 milliards. Bruxelles avait également promis de garantir une exemption de visa aux citoyens turcs. Cela ne s'est pas produit. Et ce n'est pas tout. Bruxelles avait également promis de réouvrir des négociations commerciales avec la Turquie, ce qui, selon Ankara, n'a pas eu lieu non plus. Mais après le dernier incident à la frontière, Bruxelles a accepté d'apporter une assistance à la Turquie et promis 180 millions d'euros pour commencer. Maintenant, si le cessez-le-feu entre la Turquie et la Russie actuellement en vigueur au-dessus d'Idlib se maintient, cela pourrait être le début d'un processus de paix plus vaste, un processus qui, en fin de compte, pourrait arrêter complètement l'exode de ce réfugié.
Jan van der Meyde de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. En Russie maintenant, Dieu fait son entrée dans la Constitution. En effet, Vladimir Poutine propose une série d'amendements très symboliques dans le cadre de la réforme du texte fondamental. Agnia Stroganova, de la rédaction russe. Le président Poutine en a fait récemment l'annonce.
C'est cela, et c'est l'un des sujets les plus débattus cette semaine en Russie. Vladimir Poutine propose donc d'introduire dans la Constitution la mémoire de nos ancêtres qui nous ont transmis des idéaux et la foi en Dieu. Or, la Russie, je le rappelle, est un État laïque, très multiconfessionnel, multiethnique, et l'État où est l'Église est officiellement séparée de l'État. Cette proposition fait évidemment couler beaucoup d'encre, à l'instar de Dmitri Gloukovski, un auteur russe très connu, qui signe une tribune d'un Novaya Gazeta où il s'interroge qui sont ses ancêtres dont la mémoire on va désormais garder. Sont-ils russes ou tatars, tchétchènes ou yakoutes, sinon ukrainiens? Quels sont ces idéaux qu'ils nous ont transmis et la foi en quel Dieu? Selon Gloukovski, l'histoire millénaire russe, c'est l'histoire d'un empire colonial qui a changé ses drapeaux et ses dieux, mais n'avait jamais renoncé à sa nature profonde.
Alors, est-ce que cet amendement voulu par Poutine renforcerait le pouvoir de l'Église orthodoxe ?
Sans aucun doute, et on voit depuis plusieurs années ce rapprochement entre l'Église orthodoxe russe et l'État. Les offices orthodoxes pour Pâques ou Noël, par exemple, sont retransmises à la télé publique et Vladimir Poutine y assiste sans faute en cierge à la main. On voit également le patriarche orthodoxe russe Cyril jouer un rôle de plus en plus politique. Puis la majorité des Russes, 65% selon les sondages, se disent orthodoxes, mais la réalité est-elle bien plus complexe car la pratique religieuse reste faible, entre 1 et 5% à peu près selon les sondages.
Et puis je le disais tout à l'heure, Vladimir Poutine prévoit également d'inscrire le mariage comme une union entre un homme et une femme et seulement cela.
Oui, et cette mesure, elle aussi, va dans le sens de l'Église orthodoxe. La dimension homophobe de la législation russe n'est pas un secret. En 2013, la même année où le mariage pour tous est officiellement légalisé en France, la Russie adopte-t-elle une loi interdisant toute propagande homosexuelle auprès des mineurs, et la population soutient massivement cette mesure. Tant que je serai au pouvoir, le mariage ce sera un homme et une femme, pas question d'avoir un parent 1 et un parent 2, avait déclaré Vladimir Poutine le 26 février dernier. Ce genre de déclaration plaît en Russie. Et il y a un député russe, le vice-président de la Douma, Tolstoï, qui est à l'origine de cet amendement, qui a été interviewé vendredi, par RT France, la chaîne francophone du Kremlin, où il a expliqué qu'en Russie, on a une approche bien différente que celle qui circule aujourd'hui en Europe.
Anya Stroganova, de la rédaction russe de RFI. Avec la rédaction chinoise, intéressons-nous à ce projet du gouvernement d'instaurer une carte de séjour permanente pour les étrangers. Hermine Roumilac, pour prendre le pouls de l'opinion publique, les internautes sont invités à donner leur avis. Mais contre toute attente, ce projet a suscité un tollé de critiques.
Oui, donc sur Weibo, donc l'un des réseaux sociaux les plus populaires en Chine, avec WeChat, il y a plus de 3 millions de vues sur ce sujet.
3 milliards ou 3 millions ?
3 milliards, pardon. Et plus de 400 millions de discussions sur ce sujet aussi. Donc, ça a attiré plus d'attention que le coronavirus. Donc, l'ampleur est telle que le site internet dédié à la consultation a fermé les commentaires. Donc, les Chinois ne veulent pas cette loi à travers les commentaires. Selon eux, ce projet de loi donne trop de privilèges aux futurs détenteurs de cette fameuse green card à l'américaine. Les plus extrêmes est d'aller jusqu'à dire faut sauver la nation et à lancer un mouvement contre ce projet aussi.
Alors justement, le détail de ce projet-là, pourquoi le gouvernement veut faire passer cette mesure?
En fait, cette sorte de carte verte chinoise existe déjà en Chine depuis 2005, mais les conditions sont tellement strictes que très peu de gens peuvent l'obtenir. La situation peut paraître absurde. Par exemple, de 2004 à 2013, parmi près d'un millions d'étrangers résidant en Chine, moins de 8000 seulement ont obtenu la carte de séjour permanent. C'est-à-dire, c'est 0,06% de la population chinoise. Le taux est très très bas, presque le plus bas du monde, dans le monde entier. Mais face à la mondialisation, la Chine est forcée de voir la réalité en face. Surtout, tous les autres pays font concours pour attirer les meilleurs cerveaux et les investisseurs chinois qui ne peuvent plus rester que le gouvernement chinois ne peut plus rester sur leur position dure.
D'accord. Qui sont les gens qui seraient concernés par l'obtention de cette green card?
Oui, ça concerne principalement trois catégories de personnes. Donc, il y a le gros groupe familial, les investisseurs étrangers qui peuvent apporter plus de 10 millions de yuan, équivalent d'un peu plus de 120 000 euros. Donc, mais aussi, surtout, les étrangers de talent, donc avec au moins un diplôme de doctorat ou des personnalités ayant apporté une grande contribution à la Chine. Donc, je pense à M. Raffarin, c'est l'ancien Premier ministre français qui est un grand ami chinois. S'il fait la demande, je crois qu'ils peuvent obtenir facilement.
Donc, l'idée, c'est l'ouverture, d'ouvrir encore plus la Chine, malgré les critiques des internautes. Comment expliquer ce phénomène ? Alors, vous n'avez recueilli un témoignage.
Donc j'ai posé la question à un écrivain chinois qui habite à Berlin actuellement. C'est Monsieur Zhou Qing. Il a expliqué son point de vue sur ces questions. Alors, il a expliqué qu'une société en bonne santé ne peut pas se plier sur elle-même. Il pense aussi que les critiques des internautes chinois contre ce projet de loi n'est rien d'autre que des pleurs sur leur sort seulement. Donc, ce sont des réactions d'un peuple frustré dans un régime anormal. Donc, M. Zhou a critiqué sévèrement le racisme envers les Africains qui sont un pur bêtise et sans fondement. Il a conclu par cette phrase que j'aime beaucoup. Il a dit « La tolérance d'une société reflète son niveau d'humaniste et de civilisation ».
Hermine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI, merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde.